He's got gun. Holt left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha. Quick, guys.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery.
Yes!
Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Touchdown.
Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Touchdown Actu, Raoul Villeroy de retour au micro, très heureux d'être là pour cette nouvelle saison de NFL avec vous et je suis aujourd'hui avec Raphaël Masmejean pour cette émission. Salut Raphaël.
Salut Raoul, salut tout le monde.
Ça va ?
Eh ben écoute, ça va, tranquillement, une belle première semaine. Donc on
J'ai arrivé. L'impression de te voir en t-shirt, c'est incroyable, mais vrai, il est là, il n'a pas sa chemise habituelle.
Ah ouais, bah en même temps, t'as vu le temps.
Eh oui, tu avais raison.
Je suis en congé cette semaine, alors je me permets des petites folies.
Donc les folies de Raphaël, c'est les t-shirts, vous le saurez. Nouveau format du jeudi, je disais le sujet du jour, l'affiche de la semaine, les pronos et les questions des auditeurs. La bonne blague hein, pour que ça ne dure pas une heure et demie le mardi, comme mardi dernier. L'affiche, ce sera évidemment le remake du Super Bowl 49 entre les New England Patriots et les Seattle Seahawks. Et le sujet du jour va un peu dans ce sens puisqu'on va parler, Raphaël, NFC versus AFC. Quelle est la meilleure conférence? Où est-ce qu'on joue le meilleur football? Qui a le meilleur logo? Bien sûr, on répond à toutes ces questions essentielles dans ce, pas de débat, mais voilà, on dira sujet du jour. Raphaël, est-ce que tu es prêt?
Au taquet.
Alors, c'est parti après le petit jingle.
Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Raphaël, le sujet NFC versus AFC. On va commencer par un tout petit peu d'histoire pour recontextualiser tout ça. Donc la NFL qui a fusionné avec l'AFL en 1970, la NFL était un peu plus ancienne, c'est-à-dire de 1922 contre 1960, mais l'AFL faisait plus d'audience et de la concurrence, tirait tout le monde vers le bas, donc fusion. En termes de titres, puisque c'est peut-être par ça qu'on va commencer à juger, c'est 29 pour l'AFC contre 27 pour la NFC, et t'as quand même des phases un peu de domination, à savoir que 84 à 96, t'as 13 titres pour la NFC, grâce aux Bills qui en perdent 4 de suite notamment, et depuis 2000, c'est 13 à 7 pour l'AFC, merci aux Patriots. Pour commencer, Raphaël, j'ai envie de te poser la question, est-ce que tu as un adjectif pour définir chaque conférence qui te vient en tête? Est-ce qu'on peut en donner un déjà? Est-ce qu'il y a un adjectif qui résume chaque conférence?
Peut-être sur la NFC, j'irais sur indécis. Elle me semble un poil plus indécise. Et tu lisais les chiffres ces dernières années, tendent à le montrer parce que j'ai refait un peu l'exercice. De 2000 à 2020, on a quand même 13 équipes différentes de NFC au Super Bowl. Ce qui n'est pas rien. C'est quand même quasiment toutes les équipes de NFC sont allées au Super Bowl ces 20 dernières années quasiment.
Sauf 3, dont il n'y a jamais été. Donc, voilà.
Donc c'est quand même un sacré chiffre. Alors qu'à l'inverse, côté AFC, tu n'as que 5 équipes qui sont allées sur ces 20 dernières années. Forcément, les Patriots n'aidant pas, en étant les épouvantails de l'AFC, ça a un peu embêté tout le monde les autres années. Plus tu rajoutes les franchises de Peyton Manning, enfin voilà, tu as vite fait le tour.
C'est ça.
Donc effectivement, je dirais la NFC, c'est l'indécision. C'est la conférence où on a l'impression que chaque année, peut-être une équipe plus qu'une peut sortir du lot de façon soit inattendue ou en tout cas dominer les autres. Et l'AFC, du coup, je dirais que c'est peut-être celle qui a les franchises, les grosses franchises les plus stables ces dernières années finalement. Steelers, Ravens, Patriots, c'était stable, ça allait souvent dans les derniers carrés, on va dire. Enfin, voilà.
Alors c'est pas pour casser ton travail, mais moi j'avais compté 7 équipes pour l'AFC et je suis en train de les refaire dans ma tête, mais Steelers, Ravens, Colts et Broncos avec Peyton Manning, ouais, et Patriots, mais il y a les Chiefs aussi, ça fait 6 et il doit m'en manquer une du coup, mais bon
Ouais, il y en a moins. Pas dû compter les Chiefs, effectivement. Je n'ai pas compté les derniers sortants. Mais,
De toute façon, il y en a moins. Moi, j'ai réfléchi un peu et je trouve, mais c'est un ressenti qui est un peu perso. L'AFC, effectivement, rejoint ce que tu disais, c'est un peu plus des équipes stables, établies. C'est, dans ma tête, c'est un peu old school, l'AFC, ce qui est faux, parce que la NFC, par définition, est plus ancienne. Mais pour moi, l'AFC, c'est un peu plus old school avec des grosses défenses et des équipes qui avancent doucement, c'est paradoxal, mais bon, voilà, qui ont toujours des schémas un peu établis, là où la NFC, c'est un peu plus le show, l'explosivité. Ça joue peut-être aussi parce qu'il y a eu récemment des équipes qui allaient un peu dans ces sens-là, mais maintenant, tu as des exemples inverses à chaque fois. Ouais, tu as les Chiefs en AFC, tu peux avoir des grosses défenses aussi en NFC, je pense aux Bears, je pense aux Panthers. Voilà, enfin, pas cette année forcément, mais de manière sur les 20 dernières années, on va dire. Voilà, moi dans ma tête, c'est un peu plus ça, c'est plus genre l'AFC, un peu les pas les papis, même les papes, ouais, les pères de famille posés, et la NFC, c'est un peu les Jones qui balancent à tout va. Voilà, c'est un peu l'image que j'ai, je trouve.
Ouais, mais c'est, enfin, justement, moi, pour parler un peu projection, je trouve que finalement, ça tend à devenir l'inverse. Parce que si tu regardes, la plupart des vieux quarterbacks qui font de la résistance sont en NFC. Breeze, Brady, Rodgers, Ryan, et je trouve que c'est
Stafford.
Mais Stafford dans une certaine mesure qui a déjà quasiment 10 ans en NFL.
Ouais, ouais.
Je trouve que dans une certaine mesure, alors je sais pas s'il y en a une meilleure que l'autre actuellement, mais je pense que l'AFC a paradoxalement peut-être le plus de potentiel là dans un futur proche, parce que elle a draft. Parce que quand tu regardes les franchises d'AFC, il y a tout un tas de jeunes quarterbacks déjà installés. Mahomes, Jackson, Watson. Tu pourrais même pousser jusqu'à un Josh Allen qui commence à émerger.
Derek Carr, il risque de rentrer dans ce...
Derek Carr qui rentre là-dedans. Les potentiels Joe Burrow, Tua Tagovailoa. Enfin, alors que la NFC, au contraire, tu as tous les vieux quarterbacks qui sont. Et l'avenir à moyen terme, 4-5 ans, me semble peut-être plus compliqué côté NFC parce qu'il n'y a pas tous ces nouveaux jeunes quarterbacks prêts à prendre la relève pour le moment en NFC. Donc,
Tu commençais en disant que la NFC est plus indécise. Moi, je suis assez d'accord. Je trouve que en AFC, les écarts sont peut-être un peu plus marqués. Tu as des forts très forts et alors, c'est un peu extrême, mais des mauvais, on va dire entre guillemets très mauvais. C'est des équipes NFL, donc vous voyez ce que c'est jamais très mauvais. Mais voilà, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de. En tout cas, je le vois moins le ventre mou en AFC qu'en NFC où tout le monde peut un peu jouer tout le monde. On dit toujours que la NFC Est, c'est la loterie. Chacun peut sortir. Et d'ailleurs, tu regardes, ils ont quasiment tous fait des Super Bowls. Enfin, les Giants et les Eagles, en tout cas, ont fait des Super Bowls récemment. Tout est toujours possible en NFC, alors que peut-être qu'en AFC, les petites équipes vont avoir vraiment du mal à progresser dans la post-saison en play-off.
Ouais, effectivement, c'est vrai qu'il y a ce côté-là. Je te rejoins sur l'écart. J'ai l'impression que les 3-4 équipes très fortes d'AFC ont une vraie marge avec les moins bonnes équipes de la conférence. Enfin, je trouve que l'écart entre Chiefs et Jaguars est bien plus important, par exemple, qu'entre allez, on va dire les Packers et les Redskins, quoi. Je trouve qu'il y a un écart plus.
On est d'accord.
Qui est effectivement donc moins homogène. C'est vrai que là, sur ce qu'on voit de cette première semaine, tu as un peu plus de moins bonnes équipes qui ont l'air d'être en AFC chez les vraiment moins bons. Même si les tout meilleurs, je pense, sont en AFC. Mais du coup, tu as ce delta plus grand, effectivement. Ouais, je te rejoins là-dessus.
Est-ce que, et ça rejoint aussi ce dont tu as parlé avec les quarterbacks un peu plus vieux dans la NFC, mais est-ce que c'est pas un peu les joueurs aussi qui sont présents, les joueurs stars qui sont présents dans ces deux conférences qui font un peu ces idées qu'on peut se donner? Et tu as cité Brady évidemment en premier, mais Brady, il a fait 20 ans en AFC. À l'inverse, Cam Newton qui est le quarterback jeune, en tout cas plus jeune, et avec un peu le show évidemment, l'explosivité en attaque, tout ce que tu veux, lui il se retrouve en AFC. Mais est-ce que c'est pas aussi les joueurs stars des deux conférences qui font qu'on a ces perceptions là des deux conférences?
Ouais, peut-être. J'essaie de faire un listing listing rapide. Mais je pense que là, on a, ça, c'est une perception vraiment, hein, je leur dis, mais je pense que c'est une perception qui, à mon avis, était valable jusque-là et qui change vite parce que l'AFC est en train, le nouveau visage de la NFL, à mon sens, c'est en AFC. Mahomes, Jackson, Watson. Voilà, je pense que c'est en AFC le nouveau visage et que, du coup, c'est une perception, nous, qu'on a, mais par le recul, parce qu'on a 20 ans derrière où tu avais les vieilles légendes en AFC, Manning, Brady, Roethlisberger, enfin, ouais, celles qui nous paraissaient un peu plus établies. Et alors que là, je trouve qu'on a un retournement finalement. On commence progressivement à avoir les vieilles figures établies de la ligue côté NFC et les toutes nouvelles stars plutôt en AFC.
De toute façon, oui, après, c'est évidemment des perceptions un peu personnelles à chacun. Et du coup, je suis obligé de te poser la question, mais quelle est ta conférence préférée? Maintenant qu'on a débattu de tout ça.
Écoute, je pense de plus en plus l'AFC. Je préfère de plus en plus l'AFC, ouais.
Ok. Moi, j'avoue, j'ai toujours été aussi AFC, mais c'est parce que j'ai commencé avec les Chargers et du coup, AFC forcément. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours trouvé plutôt cool de voir les grands quarterbacks en tout cas qu'il y avait en AFC. Tu les as cités, les Roethlisberger, Brady, Rivers, disons-le, Flacco, Manning, enfin voilà, moi c'est toujours des joueurs que j'ai bien aimé voir et du coup j'ai plutôt bien aimé regarder les matchs d'AFC à chaque fois. Est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose les matchs interconférences, du coup les AFC versus NFC, est-ce que ça a une saveur particulière ou en fait c'est pas forcément le cas pour toi?
Non, pour moi ça n'a pas tellement de saveur particulière. De toute façon, il y a des divisions qui se jouent qu'une fois tous les 4 ans quasiment, ouais, qu'une fois tous les 4 ans, donc ça enlève quand même le côté
Je crois qu'il y a quelques matchs cette semaine, on en reparlera au moment des pronos, mais effectivement, il y a des équipes qui ne se sont pas jouées depuis 4 ans. On va en reparler au moment de l'affiche aussi. Ouais. Très bonne transition, bravo Raphaël. mais voilà, c'est vrai qu'effectivement, du coup, les faits qu'elles s'affrontent un peu moins, forcément, ce n'est pas un match de division où là, il y a des vraies rivalités, etc. Bon, petit sujet du jour, AFC versus NFC. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quelle est votre division préférée, bien sûr, et pourquoi on adore toujours lire ces petites histoires. Et Raphaël, on va passer à l'affiche de la semaine après un autre jingle. L'affiche de cette semaine 2, on ne pouvait pas passer à côté, évidemment. Seattle Seahawks, une victoire, zéro défaite contre New England Patriots, une victoire, zéro défaite. C'est le Sunday Night Football qui se jouera lundi matin à 2h du matin, 2h20. C'est les retrouvailles de Bill Belichick et Pete Carroll, qui sont les deux plus vieux coachs de la NFL, quand même, notons-le. Il n'y a eu qu'un seul match depuis le Super Bowl, donc pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure dans les matchs interconférences. Et c'était un match qui a été gagné par les Seahawks à Boston, 31-24. Voilà, tu le sauras. Alors, les Pats version Cam Newton, ça a plutôt bien commencé. Cam Newton, il est à 15/19 à la passe, 155 yards et 75 yards au sol et 2 touchdowns. Ça, c'est pas mal. Sachant que les Seahawks, l'an dernier, ils ont cassé quasi 5 yards par course au sol, alors que tu as quand même des KJ Wright, des Bobby Wagner et tout. Est-ce que ils ont de quoi arrêter ce jeu au sol de New England qui a l'air d'être la nouvelle direction prise par les Patriots cette année?
Alors, en tout cas, c'est sûr que c'est la nouvelle direction prise par les Patriots. Ça, y a pas trop de doute quand on voit en tout cas le premier match de New England. J'ai trouvé que Seattle a bien défendu la course contre les Falcons cette première semaine. Ils ont fait un match plutôt solide à ce niveau-là, en bloquant bien Todd Gurley, ce qui a aussi forcé rapidement Atlanta à se concentrer sur la passe face aux Seahawks, plus l'écart creusé bien sûr par l'attaque de Seattle. Mais en tout cas, je les ai trouvés un peu plus forts à ce niveau-là. Je pense que mine de rien, l'apport d'un Jamal Adams aussi, qui est capable d'aller jouer un peu plus proche de la ligne de scrimmage comme safety et de bloquer la course. Et d'ailleurs, Jamal Adams a beaucoup surveillé Todd Gurley pendant tout le match. Donc, je pense que ça a aidé à ce niveau-là. On pourrait peut-être s'attendre à un Jamal Adams qui se met un peu en espion sur Cam Newton cette semaine. Et quand Cam Newton se met à sortir de la poche, très vite avoir un Jamal Adams pour essayer de le bloquer. Donc, c'est sûr que c'est une clé du match hein, pour les Seahawks, être capable de bloquer le nouveau jeu au sol des Patriots. Ils ont des armes pour ça. Je suis plus optimiste que l'an dernier. Après, avoir le, je pense qu'on n'a pas encore vu tout le playbook des Patriots, donc à voir comment eux sont capables de contrer ça aussi.
Tu parles de Jamal Adams, il connaît bien entre guillemets les Patriots, il jouait avec les Jets, donc il était dans leur division l'an dernier. Et alors je suis très content parce que j'ai découvert avant chaque émission pour vous raconter en fait. Donc Alain m'envoie toutes les infos de la NFL avec, il y a des fiches assez détaillées sur chaque match, chaque opposition, un peu des petites stats pour chaque équipe et chaque joueur. Et la NFL s'est trompée, et ça je suis très content parce que je l'ai découvert. Sur l'affiche, on m'annonce que Jamal Adams, le dernier match face aux Patriots, il a eu un pick six face à Tom Brady, donc une interception retournée en touchdown en semaine 3 de la saison dernière. Sauf que ils se sont joués deux fois l'an dernier, et l'an dernier, et le deuxième match, il a rien fait du tout, 5 petits plaquages et c'est tout. Donc voilà, la NFL m'a menti. Le dernier match de Jamal Adams face aux Patriots n'était pas si fort que ça, mais bon, le fait est que
pour le storytelling.
Voilà, exactement. Alors, petite stat rigolote. Russell Wilson face aux Patriots, c'est 6 touchdowns et 0 interception en carrière. En saison régulière, évidemment, pas besoin de vous rappeler la fin du match contre les Patriots au Super Bowl. Mais est-ce que sur ce match-là, il peut s'attendre à passer un match tranquille, entre guillemets? Il a fait 31 sur 35, 322 yards et 4 touchdowns au dernier match. Mais il encaisse 3 sacks et il a 10 QB hits sur lui. Quel va être, comment va se passer son match à lui?
C'est en tout cas, moi, c'est vraiment le match-up qui m'intéresse le plus. C'est parce que là, Russell Wilson, qui a très très bien commencé, affronte un des meilleurs backfields défensifs de la ligue avec Gilmore et Jackson, les deux cornerbacks notamment, et les frères McCourty au poste de safety. Ça va vraiment pas être la même histoire que face aux Falcons à ce niveau-là. Donc c'est sûr que pour Wilson dans son début de saison où les clés du camion lui ont été totalement données, c'est un test. Je pense qu'il est plus au niveau de passer des tests. Mais en tout cas, c'est une confrontation qui va
bonne mise en bouche, quoi.
Ouais, qui va sans aucun doute vouloir remporter. J'ai assez hâte de voir ce duel-là parce qu'on a quand même un backfield défensif de New England qui défend bien dans le slot, qui défend très très bien dans le jeu en profondeur. On sait que Wilson actuellement c'est peut-être le meilleur passeur de la ligue en profondeur avec deux gros cibles, Lockett et Metcalf, qui sont capables de faire des dégâts dans ce domaine très 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 avancé dans le terrain. Donc voir ces duels là, c'est vraiment force contre force pour le coup. Et je pense, pour moi c'est la clé du match, c'est quelle force de l'équipe va prendre le pas sur l'autre force. Et si le backfield défensif de New England arrive à éteindre Russell Wilson, ils seront tout, tout proches de la victoire. Et à l'inverse, si Wilson arrive à faire exploser ce backfield défensif, je ne vois plus très bien comment Seattle est arrêté. Donc, ce duel force contre force m'intrigue et je ne sais pas jusqu'où aller, je n'ai peut-être pas émoustillé, mais…
De hype, pour reprendre hype, une expression totalement très française. Voilà. Est-ce que le fait qu'il y ait eu un changement drastique, un changement important de direction en attaque pendant l'été du côté des Patriots, ça peut donner un petit avantage à Seattle qui, eux, sont sur la continuité très large de ce qui se fait depuis plusieurs années à Seattle? Est-ce qu'il y a déjà peut-être une petite alchimie, une petite… cohésion de groupe qui est un peu plus forte à Seattle et qui peut leur donner un avantage sur ce match, ou pour toi c'est pas
tangible? Si, je pense qu'effectivement ils peuvent avoir un avantage là-dessus. On l'a quand même vu cette première semaine. C'est vrai qu'on a eu l'impression que les équipes qui débutaient avec un nouveau quarterback, elles ont toutes perdu sauf les Patriots. C'est vrai qu'on a eu sur plusieurs matchs, on a vu un peu des erreurs de communication entre les joueurs de ligne et le quarterback, entre le quarterback et ses receveurs. Donc effectivement, je pense, et notamment dans le… Après, peut-être l'avantage des Patriots par rapport aux autres, c'est que eux, contrairement à pas mal des équipes qui avaient un nouveau quarterback, ayant une attaque basée sur le jeu au sol, j'ai l'impression que le manque de rodage et d'automatisme est peut-être moins visible sur une équipe basée au sol que dans le jeu aérien. C'est peut-être un peu plus simple, on va dire, à intégrer le playbook jeu au sol. Donc, là-dessus, les Patriots comblent peut-être le manque de pré-saison, mais… Ouais, ils ont un peu moins de rodage que Seattle, et ça peut avantager Seattle un petit peu, clairement.
Et pour aller dans ton sens, alors c'est peut-être une perception, mais pas du tout Russell Wilson, et au contraire Cam Newton. Cam Newton, quand il se passe un truc qui est pas censé se passer, j'ai l'impression, mais Russell Wilson aussi, qu'il est capable de… au pire se débrouiller et de prendre le ballon et d'essayer de courir avec, même si c'était pas ce qui était prévu. Enfin, voilà, d'essayer de créer quelque chose. Donc,
bon, si là où peut-être pour les autres quarterbacks qui démarraient avec leur nouvelle équipe, ça s'est pas forcément passé comme on voulait. Cam Newton, il a peut-être cette capacité aussi, justement en courant, à compenser un peu ces petites erreurs là. Maintenant, le maître en improvisation de la NFL, c'est quand même Russell Wilson, même si maintenant il est un peu disputé évidemment par Patrick Mahomes, mais pour moi, Russell Wilson reste le maître improvisateur de la NFL. Donc là-dessus, il n'a pas forcément un avantage. On est obligé de se mouiller, évidemment. On va le faire pour tous les matchs, mais on va commencer par celui-ci. J'avoue, moi, j'ai pris les Seahawks sur la base de peut-être cette cohésion de groupe et cette alchimie qui existe déjà, là où les Patriots, oui, se sortent d'une bonne première semaine, enfin face aux Dolphins, hein, et du coup, vont peut-être buter sur un groupe un peu plus près que eux.
Ouais, pareil, je joue Seattle sur l'impression de la première semaine. Seattle m'a semblé un peu plus prêt et totalement en attaque en tout cas, plus capable de courir un peu. Voilà, je pense que pour les Patriots, c'est peut-être un peu plus compliqué là, dès la semaine 2 d'affronter Seattle avec une équipe forcément un peu plus en rodage comme on l'a dit, même s'il y a forcément des opportunités parce qu'ils peuvent essayer de déstabiliser Wilson à cause de sa ligne offensive. Ils peuvent essayer un peu de jouer dans le slot. On a vu que Seattle a eu un peu plus de mal à défendre le slot. Peut-être qu'un Edelman peut tirer son chapeau à ce niveau-là. Mais bon, je vais quand même y aller avec Seattle pour le coup.
Ouais, je voulais regarder justement. Ouais, Russell Wilson, il a lancé 4 touchdowns. C'est le meilleur à ce niveau-là, à égalité avec d'autres, notamment
Rodgers.
Bah, je crois que c'est que 2. Mais bon, ouais, bref, voilà, ils font une excellente impression en première saison et ça devrait aller dans ce sens-là. On prend tous les deux les Seahawks et on va passer, après le jingle, à tout le reste des pronos.
It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special! It's our night and it's our division! It's our time to go win it! We're gonna start fast and finish strong! Yes, sir! Let's go! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Work!
Alors, les pronostics, c'est parti, ça y est, mesdames et messieurs, nous sommes lancés, la grande course au challenge, défi, gage, qu'on ne fait plus depuis 3 ans, est parti. Et donc, la semaine dernière, les premiers scores sont tombés, ça commence merveilleusement bien pour votre serviteur, déjà dernier, 8 points pour moi, terrible. Greg est à 9, Camille et Alain sont à 10 et Raphaël est à 11. Vous avez donc l'alpha et l'oméga du classement dans ce podcast. Vous allez pouvoir évaluer qui a raison, qui a tort. Comme toujours, évidemment, je croise en mes chances, je vais remonter. On commence donc cette semaine 2. Dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h20 du matin, Bengals 0 victoire et 1 défaite chez les Browns. 0 victoire et 1 défaite aussi. Alors figure-toi Raphaël qu'on fête les 100 ans de la NFL tout pile ce jeudi, puisque aujourd'hui on enregistre le 17 septembre. Et alors la dernière fois c'était la 100e saison, mais le 17 septembre 1920, à Canton dans l'Ohio, a été créée la première ligue professionnelle de football. Et donc les deux équipes de l'Ohio, les Bengals et les Browns, vont s'affronter pour commémorer ce 100e anniversaire. Belle petite histoire aussi, décidément, le storytelling de cette NFL.
Ils sont forts. Hein.
Ah, ils sont forts. Qui t'a semblé le moins inquiétant en semaine 1 entre les Bengals et les Browns?
Alors, paradoxalement, j'ai trouvé les Bengals moins inquiétants parce qu'en fait, je ne les attendais pas bons. Donc, le fait qu'ils ne soient pas forts ne m'a pas plus inquiété que ça pour eux, alors que j'attendais un peu mieux des Browns. Donc, j'ai trouvé, par rapport au niveau attendu, la défaite des Browns plus inquiétante, surtout… Enfin, on l'a dit dans l'émission débrief, mais les problèmes avec Odell Beckham, un jeu au sol pas bien utilisé, bon bref, beaucoup de choses un peu inquiétantes. Malgré tout, je vais quand même aller avec Cleveland parce que je pense qu'ils ont actuellement un peu plus d'armes, ils ont quand même un peu plus d'armes que les Bengals, que ce soit en attaque ou en défense. Un Joe Burrow, on l'a vu, qui a pas eu un premier match facile face aux Chargers, même s'il y a ce beau dernier drive pour un peu montrer qu'il a du potentiel, mais ça me semble un peu trop juste côté Cincinnati, donc moi je vais aller avec Cleveland.
Ah ben voilà, premier désaccord. Moi j'aurais pris les Bengals justement, comme toi, c'est eux qui m'ont le moins inquiété des deux en semaine 1, on va dire. Et puis bah oui, Burrow, il avait quand même un gros morceau avec la défense des Chargers à affronter en semaine 1, donc là je me dis que face aux Browns c'est peut-être un petit peu en dessous, donc il y a moyen de faire un peu mieux. Les Browns qui veulent déjà échanger Odell Beckham Jr. Est-ce qu'on part sur une saison de tanking, Raphaël?
Non, je pense qu'ils ont raison là-dessus. Enfin, clairement, depuis qu'il est arrivé à Cleveland, ça se passe pas bien. Il a pas l'air d'avoir d'alchimie avec Baker Mayfield. Autant essayer d'en obtenir quelque chose maintenant plutôt que de laisser la bombe exploser. Donc,
oui. On part donc tous les deux. Non, pardon, pas tous les deux. Moi, les Bengals et toi, les Browns. On part sur la grosse série, 10 matchs, il me semble, de dimanche à 19h. On commence avec les Jaguars, une victoire, zéro défaite. Chez les Titans, une victoire, zéro défaite. Petite surprise des Jaguars quand même en semaine 1 avec une fiche quasi parfaite de Minshew à 19 sur 20, 173 yards et 3 touchdowns. En face, Derrick Henry aussi est en forme, 116 yards collés façon Broncos. Qui a tes faveurs sur ce match, Raphaël?
Je pars avec Tennessee. Je les ai trouvés dans leur victoire face aux Broncos un peu plus fort que ce que les Jaguars ont fait. Faut pas oublier que Tennessee perd 10 points au pied quand même. Enfin, normalement, ils ont une victoire un peu plus facile que ce qui n'y paraît face à Denver. Et puis, leur défense me semble aussi un peu plus forte que celle des Colts qu'ont affronté les Jaguars la semaine passée. Donc, voilà. Après, je pense que match de division, ça peut être assez accroché. On peut avoir des Jaguars qui posent encore problème à leurs adversaires, mais bon, je vais y aller avec Tennessee quand même, force à la stabilité de Tennessee un peu ces dernières saisons, on va dire.
Ouais, tu vois, je repense à notre sujet AFC NFC. Typiquement Jaguars Titans, c'est pour moi c'est caractéristique de deux équipes AFC où ça va pas être incroyable, explosif et tout. C'est l'AFC quoi. C'est... Mais je vais te rejoindre, je vais prendre les Titans aussi. Les Titans qui me semblent également un peu plus solides que les Colts, que les Jaguars ont battu la semaine dernière. Donc ça devrait le faire pour eux. Panthers, zéro victoire et une défaite chez les Buccaneers, zéro victoire et une défaite. On a eu la première de Tom Brady, on l'a vu, on était là, souvenez-vous-en, c'est historique. Il a soufflé un peu le chaud et le froid. Alors les Saints, c'était un gros morceau pour commencer, là ça se calme avec Carolina. La question, ça va être la même pour toute l'année, pour les équipes que jouent les Panthers. Est-ce que Christian McCaffrey peut suffire à gagner face à l'équipe adverse, en l'occurrence les Buccaneers?
Je suis pas bien sûr parce que les Buccaneers, on l'a encore vu, ont très bien défendu la course contre les Saints, qui sont pourtant une équipe qui court bien. Ouais. Déjà l'an dernier, Tampa Bay défendait très bien la course, donc ça me semble compliqué. De toute façon, la défense de Tampa Bay a fait quand même une bonne impression malgré tout en semaine 1, malgré la défaite. Donc je les vois bloquer encore plus facilement l'attaque de Carolina, et puis Tom Brady va un peu plus dérouler, je pense aussi. Donc Tampa Bay,
ouais. Ouais, ouais, Buccaneers pour moi aussi. La question McCaffrey ne suffira pas, donc victoire pour les adversaires des Panthers, à savoir les Buccaneers. Les Broncos à zéro victoire et une défaite chez les Steelers à une victoire et zéro défaite. Alors les Steelers n'ont pas explosé en attaque, mais ça, moi j'ai trouvé que ça pouvait ressembler au, c'est un peu les prémices d'une rédemption de Big Ben et toute sa bande, un peu genre ça c'est le premier match et le deuxième va être encore mieux et le troisième va être encore mieux. En tout cas, ça peut être le début d'une série sympa. Les Broncos n'ont pas été ridicules non plus, la DAC a du potentiel, mais dans ce cas-là, tu compares les défenses et là, les Steelers sont au-dessus.
Oui, les Steelers sont au-dessus, pareil, j'ai un peu la même impression que toi, ils ont commencé un peu doucement face à New York, mais malgré tout, avec des bonnes bases pour montrer qu'ils allaient être costauds cette saison. À Denver, faut pas oublier qu'il y a des blessés, on sait toujours pas si Cortland Sutton va revenir, et Jibouille s'est blessé aussi. Philippe Lindsay au sol aussi s'est blessé. Bref, ils commencent un peu à accumuler les blessures
déjà
face à une équipe des Steelers qui se rôde progressivement. Donc Pittsburgh pour moi.
Ouais, Pittsburgh, je pense assez largement. Rams, une victoire, zéro défaite chez les Eagles, zéro victoire et une défaite. Alors deux surprises en semaine une, mais pas dans le même sens. Et alors quand on voit ce qu'a pris Vance face à Washington et que là il affronte Aaron Donald, bon. Alors j'espère pour lui qu'il va pas se passer la même chose. Alors attention quand même, il y a un petit espoir entre guillemets. Philly a eu la meilleure défense de la ligue en semaine 1, ils n'ont qu'à ce que 239 yards. Donc pourquoi pas imaginer qu'ils peuvent bloquer un peu les Rams, mais ça semble léger quand même.
Après ils encaissent que 239 yards, mais face à une attaque de Washington qui est quand même parmi les plus mauvaises de la ligue. Les Rams, on a vu, ils savent un peu plus faire avancer la balle. Ils ont retrouvé du jeu au sol. Il y a un Robert Woods qui s'est montré excellent en première semaine. Clairement, entre toutes les blessures qu'il y a à Philadelphie actuellement, le problème sur la ligne offensive, un Aaron Donald qui a l'air bien reparti, une attaque des Rams qui a l'air d'avoir retrouvé un peu de son niveau, pas forcément d'il y a encore deux ans, mais ça a l'air déjà d'être un peu mieux, notamment sur la ligne offensive, un peu mieux que l'an passé. Du coup, je vais aller vers Los Angeles.
Pareil, quand on voit les highlights du match contre Dallas où Aaron Donald prend deux défenseurs, les pousse tous les deux, va sauter sur sur le quarterback derrière, sur Dak Prescott, c'est ouh là là, il est en forme lui. Donc, Carson Wentz doit pas très bien dormir en ce moment. Rams pour nous deux, 49ers, 0 victoire et 1 défaite chez les Jets, 0 victoire et 1 défaite. Encore une équipe tiens, qui s'est jouée, deux équipes qui se sont jouées il y a 4 ans, et c'est les Jets qui avaient gagné le dernier match, figure-toi. Est-ce qu'il n'y a pas eu un petit syndrome gueule de bois du Super Bowl perdu du côté de San Francisco, en tout cas sur l'impression visuelle, je trouvais que ça rendait un peu ça.
Ouais, il y a eu un peu, effectivement, c'était pas très très bien organisé, coaché, Garoppolo était hésitant, après avec beaucoup de blessures dans son escouade aérienne qui l'aide pas hein, pour le coup. Il y a la blessure de Richard Sherman en plus pour un mois. Bon, ben, ouais. Mine de rien, c'est quand même chiant dans le backfield hein, de perdre Sherman. Quand on voit les deux dernières saisons, en tout cas la saison dernière qu'il a sorti chez les 49ers, il était quand même bien revenu. Bon, maintenant la prestation des Jets, ça a été tellement calamiteuse en première semaine que j'ai encore du mal à aller voir, aller chercher une équipe et encore plus une équipe qui était finaliste l'an dernier. Donc je vais aller sur San Francisco. Ouais.
Je vais y aller aussi. Le jeu au sol a été terrible du côté de New York en semaine 1. Il n'y a rien qu'elle est. Donc, je suis d'accord avec toi. On va partir sur les San Francisco 49ers pour nous deux. Bills, 1 victoire, 0 défaite chez les Dolphins, à 0 victoire et 1 défaite. Alors, sur le papier, normalement, il n'y a pas de débat. Mais attention, parce que je me suis souvenu que Fitzpatrick, il aime bien commencer ses saisons en faisant un peu n'importe quoi et en claquant des matchs un peu fous pour s'assurer d'avoir une fin d'année tranquille et de re-signer l'année d'après. Est-ce que ça ne peut pas être ce match-là, Raphaël ?
Bah, je crois pas. Franchement, là, pareil, hein, en termes d'impression, on reste sur des impressions de première semaine, mais la défense des Bills m'a fait une bien belle, bien belle impression. C'était déjà assez costaud à tous les niveaux. Il lâche un peu en fin de match contre les Jets, mais il mène déjà de plus de 21
ils
points.
Ils n'ont pas eu 3 forcés.
C'est quand même pas trop déconnant. Alors que Fitzpatrick a déjà lancé ses 3 interceptions la semaine dernière. Le jeu au sol des Dolphins, ça avait l'air compliqué. Bon, après, attention, les Dolphins ont bien défendu la passe, par contre, contre les Patriots, avec un bon backfield défensif. Josh Allen pourrait être en difficulté.
Mais il peut toujours courir. C'est ça aussi, il l'a montré sur ce
courir,
premier match.
Il y a un peu de jeu au sol, il a quand même beaucoup de cibles. Donc, je pense que les Bills vont quand même l'emporter, quoi qu'il arrive. Mais
Stephon Diggs a déjà un bon apport aussi. Donc, oui, normalement, il n'y a pas de débat. Les Bills doivent gagner ce match. Alors, Vikings, 0 victoire, 1 défaite. Colts, 0 victoire, 1 défaite. Celui-là, je le trouve assez intéressant parce que c'est deux équipes que j'attendais un peu meilleures, qui chutent en semaine 1, qui ont deux quarterbacks qui, voilà, tu voudrais les trouver forts, mais finalement, ils déçoivent toujours un peu. Une attaque à du potentiel, une défense normalement un peu plus solide que ce qu'on a vu. Finalement, je les trouve assez similaires en y repensant, les Colts et les Vikings. Je regardais notre power ranking d'avant saison, on a mis Vikings 11 et Colts 16. Finalement, je pense qu'ils sont peut-être un peu plus proches que ça en niveau global. Et du coup, il est dur à pronostiquer ce match.
Ouais, il n'est pas évident parce que comme tu l'as dit, deux équipes qui ont fait un premier match vraiment moyen, moyen dans les deux cas. T'as une défense aérienne des Vikings qui a fait très peur quand même face aux Packers où ils ont vraiment pris dans tous les sens. Ouais. Un groupe très jeune, hein, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas été aidés par leur pass rush. Et le problème là, c'est que le pass rush des Vikings affronte la meilleure ligne offensive de la ligue. Donc je ne suis pas sûr qu'ils puissent faire beaucoup mieux que la semaine dernière. Donc Rivers a quand même 2-3 armes, on l'a vu, Paris Campbell, T.Y. Hilton, pour exploiter des faiblesses dans le truc adverse. Et en même temps, on a vu quand même des Colts qui en défense ont pris un peu cher face à Gardner Minshew. En face, t'as Adam Thielen, t'as un Dalvin Cook.
Ouais, surtout évident, Dalvin Cook, moi. Hein. Dalvin Cook, je trouve qu'il est bien rentré dans cette saison aussi.
C'est pas évident, comme tu dis. Je le vois vraiment très, très indécis celui-là. J'ai décidé d'y aller avec Indianapolis. Plus à l'instinct, j'ai pas vraiment d'argument plus précis, mais un peu plus à l'instinct sur Indianapolis.
Bah, on verra quel est le meilleur instinct, parce que moi, mon instinct m'a dit, bon, plutôt les Vikings. Mais alors peut-être pas à cause de Dalvin Cook, justement, que j'ai trouvé très fort en semaine 1. Mais de toute façon, oui, là, vraiment, celui-ci, c'est difficile de tirer un favori. Il y en a un autre un peu plus loin, donc je trouve aussi difficile, on va y arriver. Le suivant, c'est Lions, 0 victoire, 1 défaite chez les Packers, à 1 victoire et 0 défaite. Une rivalité historique, bien sûr. Il y a eu 179 matchs de saison régulière entre ces deux-là, avec 100 100 victoires pour les Packers d'ailleurs. Les Packers qui ont été la meilleure attaque en semaine 1 avec 502 yards quand même gagnés dans le match. Est-ce que Aaron Rodgers n'a pas voulu rappeler à tout le monde qu'il est encore le patron ?
Ah bah oui, ça y ressemble un peu, la petite piqûre à vif avec le jeune quarterback rookie drafté au premier tour.
Reste sur le banc toi.
Oui, voilà, c'est vrai qu'il y avait un peu de ça, manifestement, pas, c'est indéniable. Donc clairement, par rapport à leur prestation en semaine 1, ce qu'ils ont montré, et quand on voit à l'inverse comment les Lions sont une fois de plus déçus en étant capables de faire des belles choses, puis après de s'effondrer. En fait, on a eu la saison…
Il y a un jeu, surtout des Lions qui les plombent, c'est d'André Swift.
Ouais, enfin, le problème, c'est quand même qu'ils mènent de plus de 20 points face aux Bears et qu'ils se font rattraper. Enfin, je trouve qu'en un match, on a vu une saison des Lions résumée. Des beaux espoirs au début… Puis ça se fait rattraper, puis ça se cagade à la fin. Enfin, tu vois, c'est un peu le condensé d'une saison des Lions en un match.
Donc, il y a un truc qui est inhabituel du côté de Détroit, par contre, c'est qu'il y a un coureur, un vrai coureur. Et Adrian Peterson, face à Green Bay, j'ai les stats, 1975 yards et 16 touchdowns, c'est le plus qu'il a jamais fait face à une équipe NFL. Alors oui, c'était des adversaires de division à l'époque où il jouait chez les Vikings. Enfin, ça veut dire que voilà, c'est une équipe qui lui réussit. Donc, est-ce que sur ce match-là, il peut les tirer vers le haut ? Moi, la réponse est non. Hein, mais
non,
voilà, je pose
la
question.
Ça suffira pas. Enfin, quand on voit la prestation des Lions la semaine dernière, il n'y a quand même pas de quoi être rassuré pour les voir affronter les Packers. Donc, je pense que ça suffira pas. C'est tout à son honneur, mais enfin, je n'y crois pas, non.
J'y crois pas non plus, mais voilà, je tenais à rappeler qu'Adrian Peterson est quand même encore en forme pour un 36
encore
ans.
Encore un sacré joueur.
36, je sais même plus, mais largement 35 passé. Falcons, 0 victoire, 1 défaite. Chez les Cowboys, à 0 victoire et 1 défaite aussi. Alors, sur le papier, Dallas a l'air d'être favori quand même, sauf qu'ils ont quand même pris 422 yards la semaine dernière. Alors, j'ai marqué face à Dallas, pardon, c'est face aux Rams. Hein. Et Atlanta, on avait mis 506 à Seattle. Donc, attention à pas faire une journée porte ouverte du côté de Dallas quand même.
Ouais, j'ai ce prono-là dans notre fichier de prono en commun. Je l'ai changé 3-4 fois. J'ai vraiment du mal à… Pareil, comme toi, sur le papier, je vois Dallas un peu plus fort en théorie.
En théorie.
Maintenant, ce qu'on a vu d'eux la première semaine, ils ont même eu du mal au sol face aux Rams. Je pense qu'on peut avoir beaucoup, beaucoup de points des deux côtés. Parce que c'est pareil, les Falcons, quand tu vois ce qu'ils ont pris face à Russell Wilson… Dak Prescott a quand même Cooper, Gallup et le nouveau rookie CeeDee Lamb. Bon, il y a quand même des armes aussi pour envoyer du jeu aérien. Bon.
En fait, d'un côté, t'as Todd Gurley, Julio Jones. En face, t'as Elliott et Cooper. Enfin, il y a du matos de deux côtés. Et les deux défenses n'ont pas l'air d'avoir tenu la baraque vraiment en semaine 1. Moi, j'ai l'impression quand même que la défense du côté de Dallas a peut-être un peu plus de réponses. Et c'est pour ça que je les ai pris. Mais je suis comme toi, j'aurais pu changer 3-4 fois de pronom.
Ouais, bah pareil, je vais rester sur Dallas. Mais bon, je tomberai pas de ma chaise si les Falcons l'emportent celui-là. Parce que sincèrement, vu ce qu'on a vu des deux équipes en première semaine, j'ai pas vu beaucoup d'écart entre les deux. Hein.
Est-ce qu'il y a du public ou pas à Dallas? Parce que peut-être jouer un peu. Peut-être ça peut
visiblement
jouer.
Ils vont jusqu'à 20% du stade.
Ah ok, bon, ça pourra peut-être faire un peu de bruit alors pour embêter les Falcons. L'autre match dont je ne voulais pas du tout parler tout à l'heure, c'est Giants à 0 victoire et 1 défaite. Chez les Bears, à 1 victoire et 0 défaite. Alors moi j'ai même fait pire que toi. Au début sur la fiche des pronoms en commun, j'avais marqué les Giants. Donc je n'ai aucune idée de qui va me gagner ce match-là. Je ne sais pas à qui faire confiance. À la défense de Chicago, à Saquon Barkley. Finalement, j'ai mis les Bears. Je ne sais même pas trop pourquoi, mais débrouille-toi.
Ouais, non, c'est compliqué parce que Chicago, en première semaine, jusqu'au quatrième quart-temps face aux Lions, c'était quand même le néant en termes de football, surtout en attaque. Enfin, je veux dire, il n'y avait vraiment rien de rien.
Horrible.
Bon, les Giants ont fait quelques beaux drives face aux Steelers, même si ça s'est pas toujours bien terminé. T'as ce beau drive de 17 jeux qui se termine par une interception dans l'end zone de Daniel Jones, mais mine de rien, ils ont réussi quelques fois à avancer. Alors, moi, vu que j'ai un ou deux points d'avance sur ce début de saison, je vais y aller avec les Giants. Je me permets un petit pari, mais c'est pas. C'est pas compliqué, évident,
hein. Ouais. Mmh. Et tu vois, c'est à tel point pour te dire, comme je suis indécis, sur ma fiche, j'ai marqué, donc j'ai mis en gras, quand je mets les équipes que je choisis, j'ai pris les Giants en gras. Et là, j'ai marqué, j'ai mis les Bears. Donc, je savais même plus, j'ai été vérifié. J'ai pris les Bears, effectivement. Donc, c'est bien les Bears pour qui je vote. Mais, il faut s'accrocher, hein. Dimanche à 22h05, la football team chez les Cardinals. Les deux équipes sont à une victoire et zéro défaite. En fait, mais pas du tout, ils sont pas à une victoire. Ah bah si.
Ah, ah,
si. C'est dire si c'était surprenant. Jusqu'à quand on peut blaguer sur l'échange Johnson-Hopkins, selon toi?
Ah bah jusqu'à un petit moment, hein, ça. Okay.
Alors allons-y. Parce que bon, 14 réceptions pour DeAndre Hopkins, c'est son record en carrière. On peut parler tout à l'heure de Texans, mais voilà, il a eu un impact immédiat sur cette équipe et on l'a bien vu. Alors après, de l'autre côté, Washington est allé danser sur la tête de Wentz pendant tout le match. Est-ce que ils peuvent faire à peu près aussi bien face à Kyler Murray?
Ils peuvent en tout cas lui poser pas mal de problèmes, ça c'est sûr. On l'a vu, hein, Murray qui a quand même pris encore quelques sacs là, face aux 49ers. Washington a le pass rush pour le déstabiliser. Je pense pas qu'ils iront à nouveau jusqu'à 8 sacs parce que
c'est beaucoup,
Murray, 8 sacs. Murray est un peu plus mobile et en plus la ligne offensive des Cardinals, n'ayant pas de blessés, me semble un peu mieux que celle des Eagles avec tous ses blessés. Donc après voilà, ils vont le déstabiliser, ça va l'embêter. Maintenant, comme tu l'as dit, il peut se reposer sur un DeAndre Hopkins qui a été énorme et pour le coup, je vois pas très bien Washington qui va le défendre. Donc je vais y aller sur les Cardinals. Hein.
Et moi, cette association Hopkins-Fitzgerald, elle me fait rêver. C'est vraiment genre peut-être le meilleur receveur actuel et l'un des meilleurs receveurs de la décennie précédente. Enfin, je trouve l'histoire sympa de les voir jouer côte à côte. C'est vraiment top quand on aime le beau football. Cardinals pour moi aussi. Donc dimanche à 22h25, les Chiefs à une victoire, zéro défaite. Chez les Chargers à une victoire et zéro défaite. Les Chargers qui t'ont plu, je crois, sur le dernier match, Raphaël.
Ah, tout à fait, Grande. Je vous invite à réécouter l'épisode débrief pour en savoir plus, mais oui, j'ai adoré.
La stat, elle est simple. Les Chiefs ont gagné 11 des 12 derniers matchs. Gagneront-ils 12 des 13 derniers matchs? La réponse, je crois qu'elle est vite. La question, je crois qu'elle est vite répondue.
Vite répondue, comme dirait l'autre.
Voilà, on va prendre les Chiefs. Hein.
Ouais, on va prendre. Enfin, en tout cas, sur ce que les deux équipes ont montré en première semaine, il y a pas photo pour le moment. Alors après, les matchs de division, c'est toujours un peu compliqué. Oui, enfin, des fois, bon. Mais bon. Comme tu le dis, en même temps, ils ont gagné 11 des 12 derniers, donc c'est que c'est pas si compliqué que ça non plus les matchs de division.
Je crois que le dernier gagné par les Chargers, c'était à Denver quand il y avait encore Manning. C'est te dire. J'ai pas été vérifié, mais de mémoire, j'ai un souvenir comme ça où où les Chargers vont gagner à Denver face à Peyton Manning. Ouais, mais donc c'est vous dire que si ça remonte, quoi.
Non, mais en tout cas, les Chiefs sont plus forts.
Les Chiefs sont à peu près plus forts que tout le monde, de toute façon. Ravens a une victoire et zéro défaite face aux Texans, à zéro victoire et une défaite. Deshaun Watson face à la défense des Ravens. Voilà, c'est Scott Pilgrim versus the World. Ça a l'air compliqué. Il faudrait que les Texans osent vachement le ton en défense. Ce qui me paraît pas impossible, mais peut-être un peu tôt dans la saison, je pense, pour eux.
Bah, c'est compliqué, comme tu l'as dit déjà. Je les vois pas forcément gagner le match-up attaque Houston contre défense des Ravens. Même je les vois pas gagner ce match-up-là. Mais alors, en plus, on a quand même une équipe de Houston qui sort d'un premier match contre Kansas City où il laisse le rookie Clyde Eller faire plus de 120 yards au sol.
Ouais.
Là, ils affrontent l'armada au sol des Ravens. Que pour le moment, pas grand monde n'a encore stoppé au sol, donc je vois pas comment il les stoppe, Baltimore.
Non, moi aussi Baltimore. Et voilà, pourtant, je pense que cette équipe des Texans, elle est un peu meilleure que ce qu'on a vu semaine 1, parce que tu joues les Chiefs, et forcément, c'est dur. Mais Chiefs Ravens d'entrée de jeu, on l'avait dit dans les previews, hein, pour eux, c'est compliqué. Il faudra prendre le rythme en fin de saison pour essayer d'aller accrocher quelque chose. Dans la nuit de dimanche à lundi à 20h20, donc on l'a dit tout à l'heure, c'est Patriots, c'est une victoire, zéro défaite. Chez les Seahawks, c'est une victoire, zéro défaite. On a tous les deux pris les Seahawks de mémoire.
C'est ça.
Exactement. Et dans la nuit de lundi à mardi à 2h15 du matin, Saints, une victoire, zéro défaite. Chez les Raiders, à une victoire et zéro défaite. Et c'est le premier match à Las Vegas pour les Raiders.
C'est vrai.
petite stat pour toi. Les trois dernières équipes à avoir inauguré un stade, à savoir Minnesota, Atlanta et les Rams à Los Angeles dans le SoFi Stadium la semaine dernière, ont gagné. Alors, les Chargers jouent pour la première fois dans leur nouveau stade, on l'a dit juste avant, face aux Chiefs. Donc, peut-être que la série sera finie à ce moment-là.
Hein, ouais, mais c'est ça. Potentiellement, elle s'arrête.
Quoi, mais... Si elle arrive jusqu'à Las Vegas, alors peut-être… Non, les Saints sont quand même ultra favoris.
Ouais, les Saints sont très favoris. Enfin, on a quand même vu, ils ont beau dire qu'ils ont fait un mauvais match dans le play calling offensif, tout ça. Ils en mettent 30 à Tampa. On a vu une équipe d'Oakland qui a un peu galéré face aux Panthers. À moins d'un énorme match de Josh Jacobs, mais vraiment un trou stratosphérique où il prive la balle en courant tout le temps. Il prive les Saints du ballon, mais j'y crois pas tellement. Parce que les Saints défendent bien le sol en plus. À moins de ça, je vois pas comment Oakland s'en sort. Donc, de toute façon, les Saints.
Oui, les Saints, mais voilà, la petite histoire. Le match à Las Vegas, ça va être rigolo de regarder ça. Et ben voilà, on a fait le tour. On va passer tout de suite à vos questions. Les questions qui sont aujourd'hui, désormais, le jeudi dans le podcast Touchdown Actu, vous nous les avez posées sur le site. J'ai été en prendre j'ai quasi tout pris, hein, donc voilà. On commence avec Papa Lions qui nous dit: salut la team, votre équipe déception de la première semaine. Ça, c'est la première question. Donc, ton équipe déception de la première semaine, Raphaël?
Déception de la première semaine, peut-être. Dallas et les Falcons, je les attendais un peu mieux quand même.
Ok. Moi, c'est moins glamour, c'est Détroit parce qu'ils m'ont fait perdre de l'argent. Et du coup, entre Patricia, Case, Marron, lequel prendra la porte en premier? Paronyme aussi qui nous posait la question du premier coach viré. Est-ce qu'il est déjà à l'heure de se poser la question du premier coach viré?
Il y en a qui mériteraient, mais pour moi, c'est entre Case et Adam Gase des Jets, c'est Patricia des Lions. Je pense que c'est quand même les deux plus mal. Parce que ouais. Doug Marron, mine de rien, s'il arrive à faire une saison correcte avec une équipe très jeune des Jaguars, il peut sauver sa peau là-dessus en disant: regardez, j'ai apaisé le vestiaire, j'ai pris des jeunes, ouais, ça marchait. Ouais. Mais là, quand on voit ce qu'ont fait Gase et Patricia sur la première semaine, les deux me semblent assez incontestables.
Et puis de toute façon, le Jaguar, c'est pas grave parce qu'ils iront chercher Trevor Lawrence.
Trevor Lawrence, ouais.
Voilà. Vous avez vu, on connaît des noms de NCAA quand même avec Raphaël, c'est incroyable. Delios qui nous demande: combien de temps avant que Tyrod Taylor soit benché cette fois-ci?
J'espère assez vite pour les Chargers, sincèrement. Ouais.
Moi, je dis qu'en semaine 4, c'est Herbert qui joue.
Ouais, c'est déjà 4 matchs de trop perdus, à mon avis.
Mais... non, 3 du coup. Mais...
oui. Ouais, 3. Ouais.
C'est ça. Je pense qu'au bout de 3, Anthony Lynn, il dit: ouais, ok, on arrête.
Ouais, j'espère.
Arthur Lutte qui nous dit: salut la team, heureux de vous retrouver. Ma question: pensez-vous qu'Arizona ou Buffalo ont les armes pour faire une saison comme les Jaguars en 2017, 10-6 avec une grosse défense? Merci la team.
Alors, les Bills avec une grosse défense, oui. Arizona, s'ils font 10-6, c'est pas grâce à leur défense, à mon avis, ouais, ça sera plus l'attaque.
Je suis assez d'accord.
Après, ouais, c'est deux équipes qui ont le potentiel surprise, qui ont un petit potentiel surprise. Mais le problème pour les Bills, c'est qu'il va falloir passer les Ravens ou les Chiefs pour aller en finale.
Eh, c'est ça. Cela dit, les Jaguars, ils font finale de conférence.
Ouais.
Ouais, c'est ça. Ah oui, donc il faut battre l'un des deux pour. Tu sais pas, s'il y a un tirage un peu heureux.
Ouais, un peu chanceux.
Et que les Ravens, oui, et les Chiefs s'affrontent.
Oui, c'est vrai. Ouais. Pourquoi pas.
Pourquoi pas. Enfin, ça veut dire que dans ce cas-là, il faut que tu affrontes l'autre équipe qui a battu une des deux.
Par contre, les Cardinals, de l'autre côté, quand on sait à quel point la NFC est des fois ouverte, un run en NFC, ça me paraît moins compliqué. Ouais,
ouais, on est d'accord. Le beau pied de nez à Bill O'Brien. Daigan qui nous dit: bonjour à tous. Selon vous, OBJ pourrait finir dans quelle équipe et à quel prix? Odell Beckham Jr., bien sûr. Où est-ce qu'il pourrait être intéressant et intéressé,
ouais,
peut-être?
Ouais, c'est ça. Je pense que là, lui, il cherche. Je pense qu'il ne veut pas aller partout, clairement.
Non, il veut un gros quarterback, je pense. Est-ce qu'il pourrait aller chercher les Falcons, tu vois?
Non, je pense pas. Il y a trop de. Moi, je le verrais bien chez les Patriots. Hein. Ça me ferait bien rire.
Comme d'hab. Les Patriots qui récupéreraient un truc impossible. Genre pour un sixième tour de draft, en plus.
Ça me ferait bien rire. Et après, Seattle pourrait tenter le coup. Seattle, ils sont un peu barjots pour tenter ce genre de coup.
Ouais, et puis il irait bien dans ce vestiaire-là. Je pense que Pete Carroll, c'est un mec qui peut lui parler.
Ouais, possible. Ouais.
Il y a moyen, ouais. Pas bête. À quel prix si c'est les Patriots, un sixième tour de draft. Si c'est les Seahawks, un deuxième.
Le problème, c'est que là, Bill O'Brien, il a foutu tout le monde dans la merde en donnant un deuxième pour Hopkins. Donc, personne ne va donner un premier pour Odell Beckham, surtout si, vu comment il fait la gueule.
Ouais.
Moi, je dirais deuxième, troisième tour. Hein.
Ouais, on est d'accord. Daniel Atporto qui nous dit « Salut, team TDA. Pour ou contre changer la chain crew par un moyen moderne et plus précis ?» Bah ça, moi je suis complètement pour, mais le problème c'est pas tant les chaînes le problème, c'est les hommes, mais c'est normal, c'est un système à la base sur le personne n'est parfait, donc tu peux pas savoir où est le ballon pile quand il s'arrête.
En fait, je suis d'accord, le problème vient plus du positionnement de la balle que la chaîne en soi. Elle fait 10 yards, la chaîne, si tu peux, à partir du moment où tu la mets sur le point où tu penses que le ballon est
ça.
Enfin, je veux dire, la chaîne, elle te donne sa vérité qui est... Donc, c'est pas tant la chaîne qu'effectivement le positionnement du ballon. Alors après, comment améliorer le positionnement du ballon ?
Avec des capteurs, je ne sais pas. Est-ce que tu te souviens de cette, je sais plus c'est quel match où tu avais un arbitre qui avait glissé sa petite, son petit carton entre le ballon et la chaîne pour voir qu'il restait 2 millimètres avant le first down.
Ah mais moi j'aime bien parce que c'est le côté un peu comme à la pétanque chez nous. Donc,
le côté bonne franquette. Ouais, après tout, on brasse que des milliards, ça va,
voilà,
ça va.
Voilà, c'est ça. Moi, ça me fait marrer à vrai dire.
Alors, question de Elway75, qui je crois m'est destinée, tu vas voir. Qu'est-ce qui est le plus, entre guillemets, crazy pour vous? Que Raoul prédise que Carr va se faire bencher par Mariota, que Raoul enterre les Rams à 5 victoires, 11 défaites, que Raoul croit que Rivers gagnera avec Indy 12 victoires de rang cette année. PS à Raoul ne change rien, il faut des gens qui osent et c'est pour ça qu'on te veut dans la team TDA. Merci Elway75 pour ces doux mots. Quel est le truc le plus con que j'ai, pardon, le plus fou que j'ai dit?
Je pense que c'est la première, Mariota qui remplace Carr, hein. Pour moi c'est vraiment...
Je continue d'y croire, dur comme fer. Maintenant Mariota est sur la liste et blessé. Ah, je l'ai jinxé, je suis désolé. J'y croyais volontiers en plus. Je dis pas ça. Alors, je suis pas. Il faut savoir. Je me défends pas forcément, mais je dis pas ça juste pour créer du buzz. Hein. Moi, quand je dis ça, je me dis mais c'est possible. Alors oui, je suis peut-être optimiste, utopiste, mais bon.
Ouais, je pense que ça relève plus de l'utopie.
Peut-être. Je suis un grand utopiste. Ma femme vous dirait ça. On dérive. Tech qui nous demande Isaiah Simmons, ça sent le best ou pas?
Voilà, un rookie sur un premier match. Oui. Calmer. Voilà, on va peut-être se calmer quand même.
Voilà. Non, mais c'était juste pour qu'on rappelle, première semaine, ne nous enflammons pas sur le channel interne, sur le chat interne de la
rédaction.
Surtout
sur un rookie, quoi. Je veux dire, waouh.
On est parti sur plein d'enflammades, évidemment. C'est le but du jeu, c'est très rigolo, mais ne tirons pas de conclusions trop rapides. Zaburich qui nous dit football is back pour Grégory. Hopkins est le joueur hors quarterback le plus valuable et clutch. Je voulais savoir pour vous quel est le joueur hors quarterback qui est le plus valuable et clutch.
Moi, c'est Hopkins, hein. Je l'ai dit aussi dans l'émission. Je pense qu'actuellement, Hopkins, quand on voit tout de suite le genre d'impact immédiat qu'il a sur l'équipe de laquelle il part, l'équipe dans laquelle il arrive, je pense qu'Hopkins est pas loin d'être aujourd'hui le joueur le plus clutch de la ligue.
Et
par quarterback.
Oui, et on pourrait peut-être dire Aaron Donald, du coup, qui serait
un bon complément. Je dirais, c'est ça. Si je devais faire un petit trio en poussant un peu, je dirais peut-être Hopkins, Donald et Stephen Gilmore. Voilà.
Ouais. Deux défenseurs quand même, c'est beau dans cette ligue où tout est pour l'attaque à chaque fois ou presque. Et pour continuer à parler chiffon, toujours Zaburi qui demande quel est le logo le plus moche pour vous. Les Browns, hein.
Logo, ouais. Après moi j'aime pas trop parler tous les logos avec des félins. Logo,
Ah ouais.
Ouais, je suis pas très convaincu.
Ah, je les aime bien. Les nouveaux Jaguars, je trouve top, moi, par exemple. Mais le Browns, pas y a pas grand-chose. Bah si, Washington Football Team, du coup. Merci pour tout, la team de rien, Zeburich. Tarsvelder, Tarsvelder, tu vas voir, il nous propose plusieurs choix. Quelle équipe t'a paru la plus déprimante lors de la semaine 1? Je te donne les choix. Les Browns, mais on est habitué. Les Chargers, parce que choisir un tel quarterback, c'est une honte alors qu'on pouvait aller chercher des plus corrects, genre Dalton, Winston ou Foles. Les Colts, parce qu'ils arrivent à perdre presque tout seuls. Les Eagles, parce qu'ils arrivent à encaisser 27 points contre une équipe sans nom. Les Lions, parce que l'électrocardiogramme est plat. Ou les Niners, parce que ça peut sentir le syndrome du Super Bowl perdu. Chargers, Browns, Colts, Eagles, Lions, Niners, quelle est ton équipe la plus déprimante?
Chargers.
Allez, moi, ça va être Lions. Je l'ai dit tout à l'heure. Les Lions, ça m'a vraiment embêté. Alors celle-ci aussi, elle est gratinée. Tony Gonzalito qui nous dit « Salut les poulets, quelle est pour vous la manière la plus cruelle de perdre un match sur la dernière action ?»
A, une swift, donc un drop moche dans la end zone. B, une block, un drive bien mené qui finit par un field goal abordable foiré. C, une Rodgers, une action miracle de l'équipe adverse, un Hail Mary ou autre. D, une Deshaun Jackson, un drop juste avant de passer la goal line. Donc, c'est pas que les trucs de la semaine 1, mais souvenez-vous, Deshaun Jackson qui célèbre en lâchant le ballon avant d'entrer dans la end zone. Et E, la réponse E, un receveur lancé en profondeur qui reçoit le ballon seul au monde et qui se claque avant d'entrer dans la end zone. Il n'y a pas d'exemple en tête, mais voilà, c'est un exemple. Alors, lequel est le pire pour toi?
Franchement, je crois que le field goal est le pire.
Ouais, je suis d'accord. Parce que ça te redonne de l'espoir, en fait.
Puis, c'est ça, puis ça vient quand même ruiner un effort collectif de tout le monde. J'irais sur le field goal. Surtout que là, celui qui mentionne Bullock, de mémoire, il est à peine à 30 yards, quoi. Enfin, je veux dire, le truc.
34, non?
Ouais,
je sais plus, mais
34 yards, quoi.
Mais ouais, et cela dit, c'est vrai que moi, typiquement, je repense à Rodgers qui gagne ce match il y a 4-5 ans, ou quand il bat les Lions sur deux Hail Mary consécutives. Je pense que celle-ci, quand il reste 15 secondes et que le mec est devant sa end zone, tu te dis, je peux pas perdre ce match quand même.
C'est sûr.
Je sais pas. En défaite, je pense qu'elle fait très mal. Après, quand tu gagnes celle-ci, elle est exceptionnelle. Alors que gagner, quand le mec en face râle ton field goal, oui, t'es content évidemment, mais c'est moche. Et enfin, dernière question, épithète. Salut l'équipe, quel impact visible a eu l'absence de pré-saison? Moi, j'ai pas trop vu justement.
Ouais, bon, il y a eu quelques erreurs un peu de. J'ai eu l'impression de voir pas mal de problèmes de communication entre des quarterbacks et des receveurs, des erreurs de course, mais.
Parce qu'on voit pas ça chaque année, en fait.
Moi, c'est
ça.
Non, mais oui, c'est pas non plus ultra flagrant. Hein. J'ai pas trouvé que. Faudrait peut-être voir, peut-être au niveau des blessures, pour le coup. Je sais pas si on en a plus que d'habitude.
Ah ouais. Bah, alors ça, c'est vrai que je vois passer pas mal d'articles sur le site.
Ça, j'avoue, j'ai pas vérifié, mais potentiellement, ça peut être un vrai impact.
J'en vois quelques-uns. Non, mais sinon, moi, je trouve pas que ce soit beaucoup plus flagrant que des semaines une normales, quoi.
Oui, c'est pas hyper marquant non plus, parce que on n'a pas eu de méga surprises. Les équipes très bonnes sont restées très bonnes. Les équipes moyennes, enfin.
Bah, les Eagles, quand même.
Ouais, mais tu vois, les Eagles, c'est plus dû à leurs 15 blessures qu'au manque de pré-saison, en vrai. Donc,
Les Rams, alors, la vraie surprise, peut-être?
Pas dans mon cas, mais.
Ah ouais? Saleté. À part ça, non, je ne trouve pas trop. Ouais, il faut peut-être attendre effectivement de voir les semaines 2 et 3. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup plus de blessés qu'avant? En tout cas, c'est la fin de ce podcast 361. Merci de nous avoir suivis. L'émission est disponible, bien sûr, sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Vous pouvez retrouver le site tdactu.com sur tdactu.com, hein. @tdactu sur Twitter et sur Facebook, @touchdownactu sur Instagram. On est aussi sur Twitter, @Raphaël_TDA pour Raphaël et @RaoulVDG pour moi. Toute l'actu, les chroniques, les résumés, le podcast, c'est sur le site touchdownactu.com. Merci Raphaël.
Eh ben, merci à toi.
Très content d'avoir pu reprendre. Je ne sais pas si ce sera comme l'an dernier où je fais tous les jeudis et Alain tous les mardis, mais en tout cas, pour l'instant, ça a l'air d'être parti comme ça. Ça me va très bien. On est très content. Très bonne semaine de NFL à toutes et à tous. Et des bisous. Ciao.
Ciao.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes dans TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Beastmode pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.